Ce qui nous réjouit dans ce qu'on pourrait appeler les spectacles d'Arsène Lupin, c'est le rôle éminemment comique de la police. Tout se passe en dehors d'elle. Il parle, lui. Il écrit, prévient, commande, menace, exécute, comme s'il n'existait ni chef de la sûreté, ni agent, ni commissaire, personne enfin qui pût l'entraver dans ses desseins. Tout cela est considéré comme nul et non avenu. L'obstacle ne compte pas. Et pourtant, elle se démène, la police. Dès qu'il s'agit d'Arsène Lupin, du haut en bas de l'échelle, tout le monde prend feu, bouillonne, écume de rage. C'est l'ennemi, et l'ennemi qui vous nargue, vous provoque, vous méprise, ou, qui pisait, vous ignore. Et que faire contre un pareil ennemi? À 10h20, selon le témoignage de la bonne, Suzanne partait de chez elle. À 10h05, en sortant du lycée, son père ne l'apercevait pas sur le trottoir où elle avait coutume de l'attendre. Donc, tout s'était passé au cours de la petite promenade de 20 minutes qui avait conduit Suzanne de chez elle jusqu'au lycée, ou du moins jusqu'aux abords du lycée. Deux voisins affirmèrent l'avoir croisée à 300 pas de la maison. Une dame avait vu marcher le long de l'avenue une jeune fille dont le signalement correspondait au sien. Et après ? Après, on ne savait pas. On perquisitionna de tous côtés. On interrogea les employés des gares et de l'octroi. Ils n'avaient rien remarqué ce jour-là qui pût se rapporter à l'enlèvement d'une jeune fille. Cependant, à Ville-d'Avray, un épicier déclara qu'il avait fourni de l'huile à une automobile fermée qui arrivait. Sur le siège se tenait un mécanicien. À l'intérieur, une dame blonde, excessivement blonde, précisa le témoin. Une heure plus tard, l'automobile revenait de Versailles. Un embarras de voiture l'obligea de ralentir, ce qui permit à l'épicier de constater, à côté de la dame blonde déjà entrevue, la présence d'une autre dame, entourée celle-ci de châles et de voiles. Nul doute que ce ne fut Suzanne Gerbois. Mais alors, il fallait supposer que l'enlèvement avait eu lieu en plein jour, sur une route très fréquentée, au centre même de la ville. Comment? À quel endroit? Pas un cri ne fut entendu, pas un mouvement suspect ne fut observé. L'épicier donna le signalement de l'automobile. Une limousine 24 chevaux de la maison Peugeon, à carrosserie bleu foncé. À tout hasard, on s'informa auprès de la directrice du grand garage, Madame Bob Valtour, qui s'est faite une spécialité d'enlèvement par automobile. Le vendredi matin, en effet, elle avait loué pour la journée une limousine Peugeon à une dame blonde, qu'elle n'avait du reste point revue. Mais le mécanicien?
C'était un nommé Ernest, engagé la veille sur la foi d'excellent certificat.
Il est ici?
Non, il a ramené la voiture et il n'est plus revenu.
Ne pouvons-nous retrouver sa trace?
Certes, auprès des personnes dont il s'est recommandé. Voici leur nom.
On se rendit chez ces personnes. Aucune d'elles ne connaissait le nommé Ernest. Ainsi donc, quelques pistes que l'on suivit pour sortir des ténèbres, on aboutissait à d'autres ténèbres, à d'autres énigmes. Monsieur Gerbois n'était pas de force à soutenir une bataille qui commençait pour lui de façon si désastreuse. Inconsolable depuis la disparition de sa fille, bourrelé de remords, il capitula. Une petite annonce parue à l'Écho de France, et que tout le monde commenta, affirma sa soumission pure et simple, sans arrière-pensée. C'était la victoire, la guerre terminée en 4 fois 24 heures. Deux jours après, M. Gerbois traversait la cour du Crédit foncier. Introduit auprès du gouverneur, il tendit le numéro 514, série 23. Le gouverneur sursauta.
« Ah, vous l'avez! Il vous a été rendu !»«
Il était égaré. Le voici !»
répondit M. Gerbois.
« Cependant, vous prétendiez... Il a été question... »«
Tout cela n'est que racontards et mensonges. »«
Mais il nous faudrait tout de même quelques documents à l'appui. »
« La lettre du commandant suffit-elle ? »
Certes.
La voici.
Parfait. Veuillez laisser ces pièces en dépôt. Il nous est donné 15 jours pour vérification. Je vous préviendrai dès que vous pourrez vous présenter à notre caisse. D'ici là, monsieur, je crois que vous avez tout intérêt à ne rien dire et à terminer cette affaire dans le silence le plus absolu.
C'est mon intention.
Monsieur Gerbois ne parla point. Le gouverneur non plus. Mais il est des secrets qui se dévoilent sans qu'aucune indiscrétion soit commise. Et l'on apprit soudain qu'Arsène Lupin avait eu l'audace de renvoyer à Monsieur Gerbois le numéro 514 série 23. La nouvelle fut accueillie avec une admiration stupéfaite. Décidément, c'était un beau joueur que celui qui jetait sur la table un atout de cette importance, le précieux billet. Certes, il ne s'en était dessaisi qu'à bon escient et pour une carte qui rétablissait l'équilibre. Mais si la jeune fille s'échappait, si l'on réussissait à reprendre l'otage qu'il détenait, la police sentit le point faible de l'ennemi et redoubla d'efforts. Arsène Lupin, désarmé, dépouillé par lui-même, pris dans l'engrenage de ses combinaisons, ne touchant pas un traître sou du million convoité, du coup, les rieurs passaient dans l'autre camp. Mais il fallait retrouver Suzanne. Et on ne la retrouvait pas. Et pas davantage, elle ne s'échappait. « Soit, disait-on, le point est acquis. Arsène Lupin gagne la première manche. Mais le plus difficile est à faire. Mademoiselle Gerbois est entre ses mains, nous l'accordons, et il ne la remettra que contre 500 000 francs. Mais où et comment s'opérera l'échange? Pour que cet échange s'opère, il faut qu'il y ait rendez-vous. Et alors, qui empêche M. Gerbois d'avertir la police? Et par là, de reprendre sa fille tout en gardant l'argent. On intervieva le professeur. Très abattu, désireux de silence, il demeura impénétrable.
Je n'ai rien à dire. J'attends.
Et Mademoiselle Gerbois?
Les recherches continuent.
Mais Arsène Lupin vous a écrit.
Non.
Vous l'affirmez?
Non.
Donc c'est oui. Quelles sont ses instructions?
Je n'ai rien à dire.
On assiégea Maître de Tinan. Même discrétion.
Monsieur Lupin est mon client,
répondait-il avec une affectation de gravité.
Vous comprendrez que je sois tenu à la réserve la plus absolue.
Tous ces mystères irritaient la galerie. Évidemment, des plans se tramaient dans l'ombre. Arsène Lupin disposait et resserrait les mailles de ses filets pendant que la police organisait autour de M. Gerbois une surveillance de jour et de nuit. Et l'on examinait les trois seuls dénouements possibles. L'arrestation, le triomphe ou l'avortement ridicule et piteux. Mais il arriva que la curiosité du public ne devait être satisfaite que de façon partielle. Et c'est ici, dans ces pages, que pour la première fois, l'exacte vérité se trouve révélée. Le mardi 12 mars, M. Gerbois reçut, sous une enveloppe d'apparence ordinaire, un avis du crédit foncier. Le jeudi, à 1 h, il prenait le train pour Paris. À 2 h, les 1 000 billets de 1 000 francs lui furent délivrés. Tandis qu'il les feuilletait un à un, en tremblant, cet argent, n'était-ce pas la rançon de Suzanne? Deux hommes s'entretenaient dans une voiture arrêtée à quelque distance du grand portail. L'un de ces hommes avait des cheveux grisonnants et une figure énergique qui contrastait avec son habillement et ses allures de petit employé. C'était l'inspecteur principal Ganimard. Le vieux Ganimard, l'ennemi implacable de Lupin. Et Ganimard disait au brigadier Folenfant
« Ça ne va pas tarder. Avant 5 minutes, nous allons revoir notre bonhomme. Tout est prêt ?»«
Absolument. »«
Combien sommes-nous ? » ?»«
8, dont 2 à bicyclette. » »«
Et moi qui compte pour 3, c'est assez mais ce n'est pas trop. À aucun prix, il ne faut que Gerbois nous échappe. Sinon, bonsoir. Il rejoint Lupin au rendez-vous qu'ils ont dû fixer. » Il troque la demoiselle contre le demi-million et le tour est joué.
Mais pourquoi donc le bonhomme ne marche-t-il donc pas avec nous? Ce serait si simple. En nous mettant dans son jeu, il garderait le million entier.
Oui, mais il a peur. S'il essaye de mettre l'autre dedans, il n'aura pas sa fille.
Quel autre?
Lui.
Ganimard prononça ce mot d'un ton grave, un peu craintif, comme s'il parlait d'un être surnaturel dont il aurait déjà senti les griffes.
« Il est assez drôle !»
observa judicieusement le brigadier Folenfant.
« Que nous en soyons réduits à protéger ce monsieur contre lui-même !»«
Avec Lupin, le monde est renversé !»
soupira Ganimard. Une minute s'écoula.
« Attention !» fit-il.
Monsieur Gerbois sortait. À l'extrémité de la rue des Capucines, il prit les boulevards du côté gauche. Il s'éloignait lentement le long des magasins et regardait les étalages.
« Trop tranquille, le client !» disait Ganimard. « Un individu qui vous a dans la poche 1 million n'a pas cette tranquillité. »«
Que peut-il faire ?»«
Oh, rien, évidemment. N'importe. Je me méfie. Lupin. C'est Lupin !»
À ce moment, M. Gerbois se dirigea vers un kiosque, choisit des journaux, se fit rendre la monnaie, déplia l'une des feuilles et, les bras étendus, tout en s'avançant à petits pas, se mit à lire. Et soudain, d'un bond, il se jeta dans une automobile qui stationnait au bord du trottoir. Le moteur était en marche car elle partit rapidement, doubla la Madeleine et disparut.
« Nom de nom !»
s'écria Ganimard.
« Encore un coup de sa façon !»
Il s'était élancé et d'autres hommes couraient en même temps que lui autour de la Madeleine. Mais il éclata de rire. À l'entrée du boulevard Malesherbes, l'automobile était arrêtée en panne. Et M. Gerbois en descendait.
« Vite, Folenfant! Le mécanicien! C'est peut-être le nommé Ernest !»
Folenfant s'occupa du mécanicien. C'était un nommé Gaston, employé à la Société des Fiacres Automobiles. 10 minutes auparavant, un monsieur l'avait retenu et lui avait dit d'attendre sous pression près du kiosque jusqu'à l'arrivée d'un autre monsieur.
« Et le second client ?»
demanda Folenfant.
« Quelle adresse a-t-il donnée ?»«
Aucune adresse. Boulevard Malesherbes, avenue de Messine, double pourboire, voilà tout. »